À CJSO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux. C'est reparti.
Il est arrivé, Laurent Paquin, salut.
Il est là, il est là.
Comment vas-tu?
Ça va mieux maintenant que je suis arrivé. Tu sais, quand t'as l'impression que l'univers est contre toi. Oui. Déjà, je partais avec un peu en retard, puis j'ai tout pogné les rouges, j'ai tout pogné les lambineux sur l'autoroute. Tu sais, tout là. Tu sais, tout pour être en maudit, puis arriver, puis... Ah, mais là, je suis content de te voir.
Ben oui, moi aussi. Laurent, on a entendu une chanson que tu connais.
Ben oui.
Un jeune artiste de la relève.
Ben oui, en arrivant, j'ai fait, mon Dieu, je connais ça, cette tune-là.
Ça te fait quoi d'abord de t'entendre à la radio?
C'est spécial. C'est toujours spécial de s'entendre. Déjà, s'entendre à la base, tu sais, c'est spécial. Puis là, à la radio, puis c'est pas des niaiseries. C'est rare. Dans mon cas, c'est rare. Fait que c'est spécial. Mais je trouve ça le fun. C'est le fun parce que quand on le fait pour nous-mêmes au début. Moi, j'ai eu cette idée d'album-là, mais je le faisais pour me faire plaisir à moi. Puis en le faisant, on oublie qu'un jour, ça va sortir, puis qu'un jour, il y a des gens qui vont entendre ça dans leur auto, peut-être. Puis quand on le vit, il y a quelque chose de spécial.
Mais tu dis, je le faisais pour moi, mais tu l'as quand même lancé officiellement le marché, alors que tu aurais pu en faire un juste pour toi, vraiment.
Ben, en fait, s'il n'y avait pas eu la pandémie, peut-être que je l'aurais même pas sorti parce que j'avais. Tu sais, c'est le genre de projet que tu mets de côté tout le temps parce que c'est pas ça ton premier métier. Fait que tu fais les choses qui sont plus pressantes, puis tu mets ça de côté, puis tu dis un jour, j'aurai peut-être le temps. Puis à un moment donné, avec la pandémie, je me suis retrouvé avec des temps libres un peu. Puis le gars qui a réalisé l'album, lui-ci, c'est un musicien. Fait qu'il avait perdu tous ses contrats de spectacle. Fait que c'est lui qui m'a dit, « Hey, moi, j'ai du temps maintenant. » Fait que je sais pas si t'es toujours sérieux avec ton projet d'album. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai fait, « Oui, oui, je suis toujours sérieux. T'as le temps là, ben moi aussi. » Fait que faisons-le.
Est-ce que ces chansons-là étaient écrites depuis longtemps?
Pas depuis longtemps, mais quand on a décidé d'aller en studio, j'avais déjà pas mal tout fini l'écriture. Tu sais, ça faisait 2-3 ans, moi, que j'y pensais. La première chanson que j'ai écrite sur cet album-là, c'est il y a peut-être 3 ans.
OK.
Fait que, tu sais, pour te dire comment je suis pas vite dans la réalisation de ça. Mais tu sais, c'est pas un projet que je pensais... Je savais pas si j'allais le faire, cet album-là. Au début, je me disais, j'écris des tonnes parce que j'aime ça. Puis je trouve que j'ai des choses, le fun à dire, des belles choses. J'ai des belles idées, je pense. Puis, mais tu sais, quand tu y crois plus ou moins, parce que je suis un humoriste, tu sais, c'est pas un projet prioritaire, mettons. Puis... Mais à un moment donné, tu commences à te prendre au sérieux, puis là, tu le fais sérieusement. Puis on a travaillé cet album-là sérieusement avec des vrais bons musiciens. Puis ça sonne. J'ai l'air d'un vrai chanteur.
Toi, t'es un passionné de musique.
Oui, j'aime beaucoup la musique.
C'était difficile de savoir quel son ça allait avoir. Évidemment, il y avait les textes, mais après, t'aimes tellement de choses que c'était difficile de dire.
Mais je savais que ça allait être acoustique. Je voulais que ça soit acoustique. Mes idoles à moi, c'est des gars qui jouent de la guitare. C'est souvent ça, tu sais, c'est des Plumes la Traverse, Michel Rivard, les Cowboys Fringants, Louis-Jean Cormier. Tu sais, pour moi, c'est tous des gars de guitare au départ. Fait que moi, je savais que si je faisais de quoi de plus sérieux, ça allait être acoustique. Ça allait être... Toutes mes chansons, je les ai écrites au ukulélé.
Ça, je l'ai dit, toi, t'es plus un gars de ukulélé.
Ouais, ouais. Ben moi, au début, je jouais de la guitare. Puis à un moment donné, j'ai retrouvé le plaisir d'écrire des tunes en jouant du ukulélé. Quand j'ai commencé, même en humour, quand j'ai travaillé mon show Déplaire, j'avais pas de tunes dans le show au début. Puis c'est à un moment donné, je me suis acheté un ukulélé pour m'amuser. Puis en jouant avec mon ukulélé, j'ai commencé à trouver ça le fun. Puis j'ai commencé à me dire, ah, peut-être que si je mets des chansons dans mon show Déplaire, ça va être des chansons humoristiques, mais au ukulélé. Ça va être moins chiant à traîner, un ukulélé. C'est tout petit, c'est léger. Puis c'est un peu ça qui... Mais j'ai retrouvé le plaisir de composer avec le ukulélé. Fait que toutes mes tunes, je les ai écrites au ukulélé, mais je voulais pas que ça soit un album de ukulélé. Je voulais que ça soit un album plus un peu plus orchestré que ça, t'sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même du ukulélé, un peu ici et là dans l'album, mais c'est un album surtout de guitare. Guitare, piano, contrebasse. T'sais, des instruments très, très, très... organique, là, tu sais, je sais pas si le mot est bien choisi, là, mais moi, c'est comme ça que je le vois, c'est très organique.
T'as toujours chanté dans tes shows, ça fait longtemps que tu chantes, ça vient d'où, cette passion-là?
Je sais pas si c'est une passion, mais tout petit, je faisais, tu sais, j'ai chanté dans des chorales, à l'école, au spectacle de fin d'année, quand je faisais pas de l'humour, je faisais des chansons, ça a toujours fait partie de ma vie, j'aime chanter. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « Ah, j'ai le goût de chanter ». Non, non, ça a toujours été là. Ça a toujours été naturel. J'ai chanté la messe de minuit. Tu sais, j'étais dans le chorale de l'église. Moi, je chantais « Glory, Alléluia », puis « En ces lieux durant la nuit », puis « Ça, berger, assemblons-nous », tu sais, surtout à Noël. Fait que, mais juste pour le plaisir de chanter.
Et l'écriture, tu dis que c'est arrivé pour cet album-là au cours des dernières années.
Ouais,
est-ce que ça a été thérapeutique, là, tu veux comme ça, parce que ça fait du bien écrire. Évidemment, généralement, tu le passes en humour.
Oui.
Il y a un côté thérapeutique où on se défoule par l'humour.
Mais écrire, là, il y a toujours un côté thérapeutique. C'est pas pour rien que les psychologues, des fois, ils vont le dire. Écris ce que tu ressens ou écris une lettre à l'enfant que tu étais, si tu le voyais, qu'est-ce que tu disais. Tu sais, écrire, tu sais, c'est juste mettre en mots des émotions. Juste ça, c'est thérapeutique à la base. Tu sais, fait que moi, j'ai pas voulu nécessairement exorciser mes bébites dans mes chansons, mais ça m'a permis d'exprimer un côté de moi que j'exprimais pas ailleurs. Tu sais, quand tu fais de l'humour, tu peux être touchant des fois dans un numéro d'humour, mais tu vas jamais aussi loin, je pense, dans la sincérité de l'émotion, mettons, puis de faire des tunes sérieuses. Ça m'a permis ça, je trouve, de juste montrer au monde une partie de ce que je suis capable de faire. Je pense écrire des bons textes. Tu sais, c'est, je suis pas un grand chanteur, je suis pas un grand musicien, mais je pense écrire des affaires, pas pire, pas en tout. Fait que quand j'écris cet album-là, je me dis, il faut. J'espère que les gens vont porter attention au texte parce que je me suis forcé.
As-tu été très critique envers toi-même là-dedans?
Ben oui, toujours critique.
Même si c'était pour le fun.
Ben, les premières shots où je m'écoute, j'aime pas ça. L'avantage du studio, d'ailleurs, par rapport à la scène, c'est que si je fausse sur scène, ben tout le monde m'entend fausser. Si je fausse sur un album, on recommence.
Oui.
Fait que tu sais, tant que je l'ai pas bien, on le recommence. T'sais, heureusement, je me débrouille. Je suis capable de chanter juste, t'sais, mais c'est, mettons que le studio a cet avantage-là. Je m'écoute. Puis là, j'ai OK. Puis là, j'ai mon réalisateur qui me donnait des conseils aussi, Éric Desranleau. C'est un bon musicien, mais c'est aussi quelqu'un qui chante juste puis qui a une bonne technique. Ouais. Puis, fait que s'entendre au début, c'est un peu désagréable. Puis à un moment donné, on s'habitue puis on y prend goût.
Il y a des chansons très courtes sur l'album. Tantôt, on a entendu « Faire comme si ».
Je pense que c'est la plus longue sur l'album. « Faire comme si », excuse-moi. T'as raison. Oui, c'est une très courte. C'est l'autre
«
J'aimerais que ce soit possible », qui est la plus longue
Est-ce
sur l'album.
Est-ce que c'est un réflexe d'humour d'aller direct au but?
Hey, peut-être. Je me suis pas posé la question, mais ça serait pas étonnant que ce soit ça. Il y a comme un esprit de concision qu'on a souvent en humour. En tout cas, que moi, je travaille beaucoup.
De pas se perdre dans les détails.
Ouais, en humour, moi, j'essaye de mettre le moins de mots possible pour dire quelque chose. Ce qui fait que ça me permet d'avoir un humour plus punché parce que je fais pas des longs détours pour arriver à mon gag. Ben, j'ai l'impression que ça doit être un réflexe que j'ai développé même en chanson. Tu sais, que je mets des phrases les plus simples possibles, les plus directes possibles. Fait que mes chansons, souvent, j'arrive à la fin puis je réalise que j'ai l'impression que j'ai rien à rajouter. Je veux pas mettre un autre couplet. Même si la toune est courte, je me dis, hey, il me semble qu'il me manquerait un couplet. Il me semble que c'est 2 minutes, c'est court. Puis là, j'ai dit, ben non, ça sera ça. C'est un album avec des tounes plus courtes. Puis il y en a qui sont plus longues, mais tu sais, la toune est complète, même si elle est courte, je trouve. Fait que c'est pour ça que je laisse ça demain.
On a entendu donc « Et faire comme si » et « J'aimerais que ce soit possible ». Parle-moi de ces deux chansons-là. D'où elles sont nées, ces deux chansons-là?
C'est deux des chansons que j'ai écrites pas mal dans le début. Quand j'ai commencé à écrire, c'est dans les premières tunes que j'ai écrites. C'est des tunes que je trouvais un peu plus tristes, un peu plus déprimantes même, tu sais, dans le texte. Même « Et faire comme si » qui a un rythme plus enjoué, on dirait. Je trouve qu'il y a un petit côté déprimant dans le texte de cette chanson-là. C'est comme ça que je me sentais probablement quand j'ai commencé à écrire. Je me disais, si je pourrais pas faire de l'humour, je vais aller peut-être à l'opposé. Peut-être je vais montrer l'autre extrême complètement. Fait que je suis allé avec les tunes les plus sérieuses.
Presque dans le clown triste, en quelque part.
Peut-être un peu. Il y a peut-être un peu de ça. Mais tu sais, je m'étais dit, je veux pas faire un album sérieux puis faire des chansons semi-humoristiques, semi-sérieuses. Tu sais, je me suis dit, moi, quand je fais des tunes niaiseuses, c'est des tunes niaiseuses. Puis quand je fais des tunes sérieuses, ça va être des tunes vraiment, vraiment sérieuses. Exactement.
T'as même fait des capsules de bouffe.
J'ai fait des capsules culinaires, ben oui. Des conseils. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est les caprices de Laurent.
Oui.
Et attendez-vous pas à des bons conseils nécessairement. C'est des capsules humoristiques. Mais ce que je voulais faire avec ces capsules-là, c'était quand même des vrais conseils culinaires. C'est-à-dire que...
Oui, la recette, c'est une vraie recette.
C'est une vraie recette. Si t'écoutes la capsule attentivement, à la fin de la capsule, mettons sur la... je dis comment faire une mayonnaise, ben à la fin de la capsule, tu le sais comment faire une mayonnaise. Fait que c'était ça un peu le but. Je voulais que ce soit une vraie capsule, mais avec un personnage complètement désagréable. C'est-à-dire, c'est moi, là, mais... qui endure rien, tout me tape ses nerfs. Puis ça fait des capsules que moi, en tout cas, je trouve vraiment drôles. Je les ai réécoutées et je me suis fait rire, pour te dire.
Mais c'est vraiment excellent.
C'est vraiment ça.
Nous, on les a écoutés chez nous en famille, puis on adore ça.
Oui, oui. Ben, y a un côté trash là-dedans. C'est sûr que les oreilles sensibles s'abstenir, mais c'est... La prémisse de ça, c'est que je m'étais dit ça serait drôle que l'idée derrière les capsules, c'est que Laurent Paquin, on le voit comme le gars gentil, sympathique, mais dans une cuisine, il est pas du monde, il endure personne. Puis, tu sais, puis je trouvais que ça pouvait être une drôle de prémisse.
Avec Simon Delisle.
Avec Simon Delisle.
Qui fait le faux réalisateur, parce que le vrai, c'est Alexandre Champagne.
C'est ça.
Simon... Qui a travaillé sur 3 fois par jour. Donc, oui, il connaît ben oui. ça.
Lui, il connaît et les capsules culinaires et les capsules humoristiques. Parce il a fait les deux. Ouais. Fait que c'était comme le réalisateur parfait. Puis Simon Delisle, c'est un humoriste que je connais depuis quelques années. On a fait des shows ensemble. On est devenus des amis. On a fait de la tournée ensemble, donc de la voiture. Tu sais, quand tu vas au Saguenay, puis tu jases pendant 5 heures avec quelqu'un, ça crée des liens. On est devenus des bons amis. Puis je sais que c'est un tripeux de cuisine. C'est mon pusher de viande à tourtière quand il veut. Quand il descend au lac Saint-Jean, ben lui, sa famille est au Saguenay, okay, en fait. Puis quand il descend, mettons, à l'automne, il me dit, veux-tu que je te ramène de la viande à tourtière? Je dis, oui, tu me ramènes ma viande à tourtière, parce qu'à chaque année, dans le temps des fêtes, je me fais ma tourtière du lac Saint-Jean. Fait que bref, c'est un tripeux de bouffe. C'est un excellent humoriste. On s'entend bien. Puis j'y ai proposé ça à un moment donné, de faire des capsules. Puis je disais, toi, tu vas être le réalisateur que j'envoie chier. Puis que... Toi, à un moment donné, tu vas perdre patience, puis tu vas m'envoyer chier à ton tour, puis on a un fun fou à faire ça.
As-tu aimé ça, jouer le gars pas fin?
Oui, oui, c'est le fun. Ah non, c'est bien plus le fun de jouer le gars pas fin. Tu sais, on entend ça, les acteurs, des fois, qui disent ça. Ah, c'est plus le fun de jouer un méchant, puis je suis d'accord, moi. Il y a plus, on dirait, je sais pas, c'est-tu thérapeutique, c'est-tu parce qu'il y a plus de choses qu'on peut exprimer dans... Moi, mon personnage, il est de mauvaise foi. Il est impatient.
C'est lui qui a toujours raison.
Oui, il a toujours raison. Tout le monde, il tape ses nerfs. C'est drôle, c'est drôle.
Et on a l'impression que ça ne tente pas de faire ces capsules-là non
plus.
Non,
c'est ça. C'est ça qui est l'absurdité
de
la chose.
Mais ça tente
il
pas.
Fait des capsules, mais quand on lui pose une question, il réagit toujours comme si c'était la question la plus niaiseuse qu'il avait jamais entendue. Fait que moi, ça me fait beaucoup rire de jouer ça.
Il aime un peu l'alcool. On a vu ça dans une des chroniques aussi.
Un peu d'alcool?
Il aime un peu l'alcool.
Un peu. Un peu. Il se gargarise au vin rouge à un moment donné, puis ça donne des drôles de résultats, mettons.
On va revenir à l'album. Tu as travaillé avec Éric Desranleau, évidemment, qu'on connaît dans un avec Mes Aïeux. Il a joué avec Mes Aïeux longtemps.
Oui, il a été guitariste pour Mes Aïeux, mais il était aussi.
Il est à la LNI aussi. C'est le musicien.
C'est le chef d'orchestre de la LNI. C'est un musicien. C'est un gars. C'est un chum aussi. T'sais, d'abord et avant tout, c'est un grand chum. On se connaît depuis au moins 20 ans. Avant même la LNI, moi, j'ai joué dans une ligue qui s'appelait la LIM, la Ligue d'impro montréalaise. Puis c'est lui qui faisait la musique déjà à l'époque avec son frère qui jouait de la batterie. Puis. On s'est connus là, donc puis je rentrais à l'école de l'humour, donc ça veut dire ça fait plus que 25 ans qu'on se connaît, lui puis moi. Puis je sais que c'est un bon arrangeur. Sur Mes Aïeux, il y avait c'est un travail collectif, Mes Aïeux, ouais. Mais mettons que il était très important dans la réalisation des albums puis dans la création des arrangements aussi, parce que moi j'ai écrit une mélodie, mais moi quand j'écris la toune, j'ai ma voix et un ukulélé. Mais lui, il voit dans sa tête, il entend des violons, il entend où est-ce qu'il va mettre de la mandoline. Tu sais, ça prend un talent d'arrangeur musical pour faire ça. Fait que j'ai trouvé toutes ces qualités-là chez Éric Desranleau.
Est-ce que tu l'as laissé aller complètement avec tes chansons?
Ben, des fois, je donnais mon avis. Des fois, je disais, ah, j'aime mieux telle chose ou telle chose. Mais il me connaît assez bien. Il sait ce que j'aime. Puis j'avais pas donné vraiment de contraintes, mais j'avais dit, moi, je veux que ça reste un album très organique. Tu sais, il y a même pas de bass. Tu sais, la basse, c'est même pas électrique. Tout est acoustique, ou à peu près. La basse, c'est un gars avec sa grosse contrebasse qui joue. On a de la guitare, du banjo, de la mandoline, du ukulélé. Il y a des cuivres. Il y a du flugelhorn. Du cor français. Tu sais, Puis il y a un peu de piano électrique et un peu d'orgue, mais il n'y a pas beaucoup d'électricité, mettons, dans cet album-là. Puis Éric le sait, c'est moi, c'est ça que je voulais.
Tu voulais mettre à l'avant les textes? Parce que souvent, l'acoustique, c'est à ça que ça sert. C'est de ne pas surarranger une toune pour qu'on entende le propos.
Exactement. J'ai jamais prétendu être un grand chanteur. Fait que je me dis, si les gens écoutent mon album, c'est quoi que je veux que les gens retiennent le plus? Moi, j'ai pensé les textes, la poésie. Je veux que les gens soient touchés par des rimes, par des phrases dans l'album, parce que je peux pas les impressionner par mes prouesses vocales. Fait que je trouve que l'acoustique permet de mettre les textes en valeur. Souvent, d'ailleurs, quand un artiste fait de la musique, puis que soudainement, il fait un album plus acoustique, c'est souvent ça qu'on dit, « Hey, c'est drôle, on découvre plus les textes soudainement. » Quand Michel Rivard a fait un album solo à guitare, tu réalises à quel point il y a des bons textes. Même chose pour Daniel Bélanger, tu sais. Fait que je trouve l'acoustique permet ça.
Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de textes que ce qu'il y a sur l'album?
Pas beaucoup plus. Il y en a qu'on a mis de côté. Des fois, c'est dans une chanson. C'est-à-dire que mes chansons sont courtes, mais souvent, j'ai écrit deux fois plus long pour garder les meilleures rimes, les meilleures phrases, les meilleurs couplets.
Donc, on revient au côté concis.
On revient au côté concis. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus faire quand j'écris en humour. En tout cas, c'est couper. J'adore enlever des affaires, enlever des mots inutiles, des phrases inutiles, des répétitions, des redondances. Tous les humoristes doivent faire ça.
Mais moi, j'aime pas tout ça.
Non, je pense pas que tout le monde aime ça. Moi, j'ai une satisfaction à faire des coupures dans mes textes parce que je me dis qu'à chaque fois que je coupe, j'améliore. Parce que soit j'enlève quelque chose de pas bon, fait que la toune est meilleure, puis si je suis rendu que j'enlève des choses qui sont bonnes, ça veut dire que la toune va vraiment être bonne ou le texte va vraiment être bon, parce que là, je suis rendu à couper dans le bon, ça veut dire que le reste va être écœurant, tu sais, tu comprends? Fait que c'est toujours une bonne nouvelle, je trouve, quand tu coupes.
As-tu aimé ça, le studio?
Le studio, oui.
Parce que t'avais fait un album humoristique.
J'avais fait un album de chansons humoristiques, on avait fait ça un peu de la même façon, dans un studio avec l'orchestre, qui jouait quasiment live. Les tracks de guitare, puis de contrebasse, puis de piano sont souvent enregistrés en même temps pour que les gars se sentent dans un feeling de live. Puis moi, je suis dans un cocheron à côté avec mon micro, comme ça. Si eux autres sont bons, puis que moi, je me trompe, ben on n'est pas obligé de tout reprendre.
Il y a, ta track
y a juste ma track de voix à moi qu'on reprend. Puis moi, j'adore être dans un studio. Si c'était pas une question de budget, parce que c'est cher, un studio, tu payes ça à l'heure, puis c'est une coupe de 100 piastres de l'heure des fois, tu sais. Puis, mais si c'était, mettons, un studio qui m'appartient, là, j'ai l'impression que je pourrais passer des journées complètes à essayer des affaires avec des amis musiciens. Là, on ferait des trips, des albums, on jammerait. J'aime l'ambiance d'un studio. Je trouve ça le fun d'être là-dedans.
Est-ce que c'est le genre de trip que tu pourrais faire un jour, ton studio maison?
Si j'avais mon studio maison, il faudrait que je le loue. Parce que je pense pas que je l'utiliserais assez, tu sais, pour que ça vaille la peine d'en avoir un à moi, tu sais. Mais oui, ça peut faire partie des choses qui m'intéresseraient. On sait jamais. Tu sais, à cette heure, tu peux faire bien des affaires avec un bon micro puis un ordinateur. Hein, où, la musique, c'est plus comme avant où tu es obligé d'avoir un équipement professionnel qui coûte des dizaines de milliers de dollars. Tu sais, aujourd'hui, si tu as un bon micro, un bon Mac, une bonne carte de son, tu peux sonner pro. J'ai pas le talent pour réaliser et que ça sonne pro, mais peut-être avec la pratique, ça se peut.
Et à quel moment tu t'es dit, OK, c'est bon, on va après les enregistrements en studio, que tu t'es dit, on tient un album, c'est bon, on peut le faire?
Ça se fait tranquillement parce que...
Parce que pas clair en rentrant en studio.
C'est pas évident en rentrant.
C'est un projet qui se tient et que ça va marcher.
C'est ça, c'est quand t'es en studio puis que là, t'es dans un... Tu sais, t'as les meilleurs speakers, les caisses de son dans un studio, t'as ce qu'il y a de top. Fait que là, t'es dans le studio, derrière la console, avec le gars, le preneur de son. Puis là, t'écoutes ce que tu viens d'enregistrer. Puis là, à un moment donné, tu dis, ah, il me semble ma voix est trop forte. Peux-tu la baisser? Puis là, t'écoutes. Puis là, il dit, ah, peux-tu monter la guitare? Puis là, il monte un peu la guitare. Puis là, t'écoutes. Puis là, tu réalises, OK, là, ça prend forme tranquillement. Ça commence à ressembler à une vraie toune. Puis c'est à ce moment-là, je trouve, que tu comprends ce que ça va être comme résultat final, tu sais. Fait que c'est... Mais après ça, je suis chez nous, je réécoute les tunes, je prends des notes, des commentaires, j'y envoie mes commentaires. Éric Desranleau fait la même chose, il est chez eux, il écoute les tunes, il prend des notes, puis il envoie ça au gars qui fait le mixage pour lui dire, ah, on n'entend pas assez la voix de Lana, Lana qui a fait des bacs dans une des chansons. Et fait que ça se fait tellement sur une longue période, tu sais. Il n'y a pas un moment où je me dis, OK, on est arrivé, là, tu sais. J'ai l'impression que si on... J'aurais pu continuer à faire des changements, juste pour le fun, juste pour...
Est-ce que c'est dur, ça, de dire « OK, maintenant, c'est bon, go ».
Ouais, lâcher prise, là.
Ouais, parce dire, que okay, là, un album, Eric, tu l'as sûrement fait aussi. On peut le retravailler sans arrêt.
On pourrait le retravailler à l'infini.
Il y a toujours quelque chose qui nous énerve, à un moment donné.
Ouais, ouais. Ben, à un moment donné, on y arrive, tu sais. À un moment donné aussi, moi, j'ai appris à faire confiance dans la vie. Je me fie au jugement des gens avec qui je travaille. Je me dis, vous connaissez ça mieux que moi. Tu sais, fait que le monteur, justement, celui qui prenait qui faisait la prise de son, puis le mixage, qui est bien important, j'ai dit, toi, ton juge, toi, pour toi, c'est bon, ça? Fait que lui, s'il me disait, oui, non, pour moi, c'est parfait de même, là, je dis, OK, bon, ben, je me fie à toi. Parce que moi, j'ai pas tant l'oreille musicale non plus, j'ai pas l'impression que je suis le meilleur juge. Fait que je me fie aux gens. Je suis pas un bon musicien, mais je sais m'entourer de gens qui sont bons. Fait que c'est ça souvent le secret du succès, c'est pas de tout faire, c'est de faire ce que t'es capable de faire, puis de faire confiance à d'autres personnes qui sont capables de faire ce que toi t'es pas capable de faire.
le jour du lancement de l'album, quand il a été disponible, ouais, c'était quoi ton feeling cette journée-là? Parce qu'évidemment tu le fais pas d'attente, pas de pression, mais reste qu'on aimerait ça que le monde l'écoute un peu.
Ben oui, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que dans la vie, quand tu fais quand tu fais de l'art, quand tu fais de la musique ou de l'humour, il faut d'abord et avant tout que t'aimes ce que tu fais, tu sais. Il faut que t'aimes, tu sais. Il fallait que les chansons soient des tunes qui me plaisent à moi d'abord et avant tout. Mais après ça, tu sais, t'espères que les gens vont aimer ça aussi. Fait que, oui, ça a un petit côté surréaliste pour moi, là, de dire, hey, mon album, c'est vrai, il est disponible maintenant. Mais tu sais, le lancement a été particulier parce que le jour où l'album était disponible sur iTunes, puis il y avait un bug dedans. Il y a des chansons qui coupaient en plein milieu. Fait que, okay, tu sais, ça a comme un peu scrappé les premières minutes. Tu sais, j'ai téléchargé l'album, puis il y a des chansons qui duraient 40 secondes au lieu de 2 minutes. Fait que là, il a fallu régler ce bug-là dans la journée, puis là, ça s'est corrigé par après. Mais tu sais, je recevais des messages de gens qui disaient, hey, je sais pas ce qui se passe, mais moi, il y a des tunes qui coupent, puis que je dis, ben oui, je suis désolé, on essaye de réparer ce bug-là. Fait que ça a fait un bizarre de lancement, mettons. Mais j'étais bien content. C'est, je trouve ça juste plate qu'aujourd'hui, on n'en fait plus tellement des lancements. Ouais. Tu sais, un vrai lancement, tu sais, où tu reçois du monde, puis tu jases, puis tu fais jouer l'album, puis tu donnes des albums à tes invités, puis aux journalistes, puis tu sais, ça se fait de moins en moins maintenant.
Puis là,
en plus, en période de pandémie, ouais, ça aurait pas été aussi le fun, tu sais. Tout le monde là avec un masque, ou tu sais, ça...
Non, là, ça aurait pas été une ambiance. Une fois, le jouer peut-être sur scène avec Eric.
Ouais,
pour
ça aurait
pu être.
Ça aurait pu être le fun de faire ça, effectivement. Ouais. On va peut-être se faire à un moment donné un jour un show, un soir. Je prévois jamais de tourner avec cet album-là, mais il est pas dit que je ferais pas juste pour le fun un soir, louer une salle avec des musiciens pour faire un show, juste pour le fun, puis dire au monde, là, ça sera pas des jokes à soir. Fait que si vous venez. Venez pas vous plaindre que c'est pas drôle. Probablement que je serais pas capable de m'empêcher de faire deux, trois niaiseries pareilles, là, mais un jour, peut-être, j'aimerais ça. Reprendre aussi d'autres chansons. Tu sais, j'aime... Si je refaisais un album demain, là, probablement, je mettrais une toune de Jean-Pierre Ferland dedans. Tu sais? Parce que c'est un des chanteurs que j'admire le plus. Puis il y a des chansons magnifiques que les gens connaissent pas nécessairement. Comme j'ai fait avec Plume, j'ai pris une toune que tout le monde ne connaît pas nécessairement, une toune un peu plus obscure dans l'œuvre de Plume, parce que les gens connaissent surtout ses chansons plus grivoises, comique, plus comiques, plus chansons à boire un peu, là, tu sais. Puis, mais il a écrit des poèmes magnifiques, des chansons touchantes. Puis celle que j'ai reprise sur l'album, c'est une chanson qui parle de la beauté de la vie, puis du soleil, puis de la lumière. Tu sais, c'est on quelqu'un qui le sait pas, il pourrait ne jamais savoir que c'est une toune de Plume la traverse.
Et il t'a même écrit un mot grâce à la gang de Salut Bonjour.
Oui, j'ai trouvé ça bien touchant.
Et ça t'a touché, on l'a vu à la télé.
Ça m'a touché énormément parce qu'il
est pas très public, Plume, depuis quelques années, à part les shows quand il en fait.
Oui, puis il l'a jamais tellement été, Plume. Il a toujours, il a jamais trippé, déjà passé à TV, donner des entrevues. Il aime pas ça. Il fait des fois. Puis il dit un peu, il le fait parce qu'il veut vendre des disques, là, fait qu'il est un peu obligé de faire un peu d'entrevue. Mais c'est pas un gars sorteux, puis on s'est déjà rencontrés, lui et moi. Je pense qu'il sait que c'est une de mes idoles. Fait qu'il a été bien, bien généreux de m'écrire un petit mot pour dire qu'il avait apprécié mon interprétation. C'est toujours stressant quand tu reprends la toune de quelqu'un. Oui. T'espères, tu sais, t'as pas envie que la personne fasse nah, pas sûr. Fait que c'est que Plume la Traverse me dise que j'avais le bon ton pour chanter cette chanson-là. Il a parlé de la justesse puis de la retenue aussi. Tu sais, il n'y a pas de fioriture. Tu sais, c'est le ton que moi je voulais pour la toune. Fait que j'ai fait ah, c'est mon Dieu, merveilleux, exact, excellent. J'ai chanté la toune en respectant ce que Plume voyait dans cette chanson-là. Fait que ça, c'est le plus beau compliment qu'il pouvait me faire.
As-tu pris goût à faire des albums? Parce que souvent, quand on va vers un projet qu'on a mis de côté pendant des années puis qu'on y va, là, le danger, c'est le bras dans le tordeur.
Ouais.
Pris à continuer là-dedans.
Mais moi, plus je vieillis, plus j'aime le processus d'écriture puis de création. Fait que l'album, j'aimais ça, moi. Répéter les tunes, être dans le studio. Tu sais, avant, mettons, en humour, je disais souvent que j'aimais pas écrire, mais que j'aimais ça quand j'avais écrit puis que c'était fait. Puis que j'aimais mieux faire des shows. Puis plus je vieillis, plus j'aime le processus d'écriture. Fait que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'aime la création. Puis après ça, ben là, le jouer puis le faire, là, c'est autre chose. C'est un autre genre de plaisir, mais au moins je me fais pas suer pendant la période de création, tu comprends? Je m'amuse. J'aime ça.
Donc c'est le premier, mais ce sera peut-être pas le dernier.
Ça sera peut-être pas le dernier. Tu sais, quand je l'ai eu fini, j'avais déjà une autre idée de chanson que j'aurais voulu peut-être ajouter, tu sais. Puis, fait que, tu sais, à un moment donné, faut juste fermer la boîte, là, puis dire, OK, là, il touche plus, c'est fini, c'est comme ça. Mais s'il n'y avait pas eu de limite, je pense que j'aurais rajouté des chansons encore.
Est-ce que c'est dur d'avoir un projet qui vit sans qu'on soit là? Toi qui fais de l'humour et qui fais tes shows devant des gens, évidemment, là, c'est un projet que tu lances. Et tu dois attendre les réactions.
Oui, puis des fois, il n'y en a pas. Puis les gens qui l'écoutent me disent pas.
Systématiquement.
C'est ça, dans une salle, les gens, soit ils rient, soit ils rient pas. Mais dans la vie, les gens qui écoutent l'album, ils m'appellent pas pour me dire j'ai été touché ou j'ai. Fait que. Mais ça fait partie de la beauté de la chose aussi. Tu sais, quand tu lances un produit comme ça, à un moment donné, tu dis ben, ça m'appartient plus. Les chansons sont finies, sont enregistrées. Je peux plus les changer. Les gens vont les entendre comme ça. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu vois, il y a des chansons que j'ai écrites que les gens ont vu dans mes chansons des affaires que moi, j'avais pas vues. Puis j'ai fait, ben, Colin, mais vous avez raison. Tu sais, c'est pas ça que j'ai voulu mettre dans la toune, mais vous avez raison d'avoir vu ça dans la toune. Parce que ça vous appartient maintenant. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Le Sentier, puis c'est une chanson où je parle de la vie, puis du temps qui passe, puis du fait qu'à un moment donné, on oublie les choses de notre enfance, puis que tout disparaît. Puis il y a quelqu'un qui a vu ça comme une histoire d'amour qui finit. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, moi, cette chanson-là me fait penser à ma mère qui est atteinte d'Alzheimer. Puis j'ai fait, comment ça? Pourquoi ça? Puis il m'a dit, ben, tu sais, dans ton refrain, tu parles des choses qui s'effacent de ta mémoire puis que tout va s'effacer à un moment donné. Puis j'ai fait, ben, Colin, vous avez raison. Effectivement. Fait que la toune, moi, dans ma tête, c'est une chanson sur l'enfance. Tu sais, l'enfance en aller. Tu sais, le sentier, pour moi, c'était l'endroit où tu jouais quand tu étais petit, qui n'existe plus aujourd'hui parce que c'est rendu des tours à condos ou ben non, c'est un quartier industriel. Ouais. Tu sais, moi, c'était une chanson plus sur les choses de l'enfance qui disparaissent avec l'âge. Puis il y a des gens qui ont vu complètement d'autres choses. Puis je trouve ça super. Je trouve ça magnifique que des gens puissent se faire leur histoire avec mes chansons.
Et ça veut dire que les gens se les ont appropriées.
C'est
et
ça exactement.
Ça rajoute un côté touchant.
Oui, parce qu'il y a des gens...
Ça m'appartient plus.
Les gens voient bien ce qu'ils veulent. Puis c'est parfait de même. Tu sais, la chanson qu'on a... Justement, la toune que vous avez fait jouer tantôt, « Et faire comme si », c'est une chanson qui parle de... Il faut avancer malgré tout. Tu sais, la chanson, en gros, ça dit « Se lever, marcher, puis avancer ». Tu sais, fait qu'il y a des gens qui voient ça comme une toune de résilience. Tu sais, mais moi, dans ma tête, c'est une toune bien déprimante. Parce que moi, ce que je dis dans cette chanson-là, dans ma tête, c'était « Lève-toi, marche ». Souris puis ferme ta gueule. Fais comme si. Tu sais, la phrase faire comme si, pour moi, ça voulait dire fais semblant que ça va bien. Souris puis avance. Puis écœure-nous pas avec tes problèmes. Tu sais, il y avait un petit côté très sombre, je trouvais, dans cette toune-là. Mais que les gens voient le côté avance malgré tout, ben moi, c'est parfait. Vous avez le droit de voir ça dans la toune. Parce que c'est là aussi, quand même, tu sais.
Tantôt, t'as dit qu'il n'y a plus de lancement d'album. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui ne font même plus de copies physiques de l'album pour que ça coûte et pour les ventes.
Moi, je suis vieux, nostalgique.
Est-ce que c'est important, ne serait-ce que parce que c'est ton premier, de dire ben il y aura... Moi, l'album va exister, je vais pouvoir le mettre dans les autres albums.
J'aime ça qu'il reste quelque chose. J'aime ça qu'il reste quelque chose. Il y a beaucoup d'albums que j'achète et que je télécharge puis que j'achète pas de format physique. T'sais, j'achète la toune, mais je la télécharge directement dans mon ordi ou sur mon téléphone. Mais quand c'est des artistes que j'aime, je vais acheter l'album. Puis là, de ce temps-là, mettons, j'achète des vinyles. T'sais, fait que j'avais déjà les albums de Daniel Bélanger en CD, je les ai rachetés en numérique sur mon téléphone. Et là, ils sortent en vinyle, je les achète en vinyle parce que j'aime l'objet. Je trouve que c'est plus beau d'ouvrir un album, puis c'est peut-être une vieille mentalité. Peut-être que je suis nostalgique, mais je me vois pas comme un gars nostalgique, mais j'aime ouvrir l'album de Daniel Bélanger, sortir le vinyle, faire attention pour pas mettre tes doigts dessus, puis puis pas faire de scratch. Puis là, tu le mets bien doucement, puis tu mets la petite aiguille, puis j'adore ça. Il y a un côté rituel aussi là-dedans, dans le fait de faire attention à l'objet. Puis
en entier, tu changes pas les chansons.
Tu peux pas skipper.
Dans l'univers, d'un bout à l'autre. Carrément, là.
Ben, puis quand quelqu'un fait un album, il l'a fait en pensant à quelqu'un qui l'écoute du début à la fin. Il a pas fait son album en se disant « Les gens vont faire random. »
Avec d'autres artistes.
Les gens vont écouter une toune, puis après ça, il va avoir des tounes de quelqu'un d'autre. Puis tout ça. Quand tu écris un album, tu dis « Qu'est-ce qui pourrait être la meilleure première toune? Quelle toune je pourrais mettre au début? Ah, puis avec quelle toune je vais finir? » Puis t'espères que les gens vont comprendre qu'il y a comme un fil conducteur du début à la fin de l'album. Tu sais, sur mon album, il y a la première pièce, c'est une pièce qui est instrumentale, mais très courte. Mais c'est une petite séquence de musique que je reprends dans la dernière chanson qui s'appelle « Sous mon lit ». Fait que quelqu'un qui écoute l'album d'un bout à l'autre, il comprend que je commence avec la toune « Sous mon lit » et je finis avec la toune « Sous mon lit » qui vient boucler la boucle de l'album. Puis après, il y a la toune « La rue Rachel » que j'ai mis comme une toune cachée un peu, là, tu sais, semi-cachée, là, mais je voulais que ça soit clair que c'est une toune qui est un peu en bonus, tu sais. Je considère pas que c'est une toune de mon album, mais je l'aimais tellement que je voulais la mettre pareil. Fait que je l'ai mis genre après un silence de 15-20 secondes pour que les gens se disent « OK, là, l'album est fini, mais il y a un petit bonus, un petit cadeau qui vient avec ça. »
Il y a le côté tangible, tu en as parlé, de savoir quand on est papa, là, de savoir que ça, ça reste.
C'est le fun, oui,
que ça ajoute quelque chose de dire, parce qu'un spectacle, bon, il y a les DVD, évidemment, mais il n'y a pas toujours les DVD, puis on sent que ça s'en va vers la fin, les DVD aussi.
Il y a moins de DVD, il y a des gens qui... tu sais, mettons, mon dernier show, Déplaire, ben peut-être que s'il n'y avait pas eu un réseau télé, si TVA n'avait pas dit « OK, on va le diffuser sur nos ondes », on n'aurait peut-être pas eu de DVD non
parce
plus.
Parce qu'il faut payer pour l'enregistrement.
Ben, c'est ça, ça coûte cher, l'enregistrement, puis c'est des sous, puis tu sais que... c'est pas grave d'investir des sous quand les gens achètent des DVD, mais les gens en achètent presque plus. Ben pas presque plus. En tout cas, beaucoup moins qu'avant. Assez pour qu'on se dise, ça vaut-tu vraiment la peine d'en faire un? Puis moi, ça m'aurait fait de la peine de pas en faire un. Tu comprends-tu? Moi, je l'aurais fait même, quitte à pas faire une scène avec ça, tu sais, parce que je veux qu'il reste de quoi. Tu sais, ce qui est formidable d'Yvon Deschamps, c'est que tu peux écouter ses shows, ses albums, tu sais, il me semble. Si Yvon Deschamps avait rien enregistré, ça serait triste. Ça serait tellement épouvantable. Juste de penser qu'il n'existerait plus d'enregistrement, mettons, de Les Unions que ça donne. Ou de, tu sais, je trouve ça important qu'il reste. Puis évidemment, je ne suis pas en train de me comparer à Yvon Deschamps. J'espère que tu me comprends. Mais j'aime ça qu'il reste quelque chose de notre passage sur Terre, tu sais. Ça peut être le fun de penser qu'après, les gens vont se rappeler de moi. Puis,
Et quelqu'un écoutera ça sans t'avoir connu, peut-être.
Exactement. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va le découvrir dans 20 ans, 30 ans, quand je vais être soit mort, soit has-been, puis personne ne va se rappeler je suis qui.
Puis il va peut-être découvrir le chanteur avant l'humoriste aussi.
Peut-être quelqu'un, ben peut-être aussi. Peut-être que quelqu'un va sortir un album en disant « Hey, je vais te faire écouter quelque chose que tu connais pas. C'est un vieil humoriste. Il existe quasiment plus. Garde. Laurent Paquin. » Puis des gens vont faire « Colin, il était pas mauvais, ce vieux-là, tu sais. »
Il y aura le dîner de con. Finalement, tu vas jouer dans le dîner de con.
Ben oui, finalement, on va le faire. On va finir par le faire.
Ça fait deux ans que vous êtes supposé le faire.
On doit le faire l'été passé. Ça a été remis à cet été. Puis là, ça a été remis à l'été prochain. Et si c'est remis à l'été suivant, ben là, je décroche. Là, ça va être trop compliqué. Mais parce que j'ai des projets aussi. Tu sais, moi, j'avais genre en tête d'écrire un nouveau show puis de le roder éventuellement. Fait que ça a compliqué la vie de bien du monde, mettons. On peut dire ça. Mais oui, là on le fait puis c'est vrai. Là.
As-tu hâte?
Ah oui, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. C'est pour moi, là, le dîner de con, c'est l'équivalent d'un c'est un chef-d'œuvre de comédie. Pour moi, c'est l'équivalent d'une excellente pièce de Molière. T'sais. C'est aussi bon, c'est aussi intelligent, puis c'est juste que ça a été écrit récemment. Sinon, ça sera un énorme classique de la comédie. Mais la comédie, c'est jamais si bien vu que ça. Tu sais, quand tu vas... Tu sais, les théâtres institutionnels, C'est rare qu'il joue de la comédie si c'est pas du Molière ou du Feydeau ou même Shakespeare, tu sais, qui a écrit des comédies quand même. Moi, j'ai vu une comédie de Shakespeare que j'ai trouvée bien plate. Puis j'ai fait, ben pourquoi vous avez pas programmé un auteur ou une autrice québécoise, tu sais, qui écrit de la comédie, tu sais. Fait que le Dîner de cons, c'est comme une exception là-dedans. Tu sais, tout le monde reconnaît que c'est génial, puis que c'est un excellent film, puis c'est une excellente pièce maintenant.
Tu vas faire qui dans le Dîner
Devine.
De cons?
Devine. Laurent joue dans le Dîner de cons. Qui tu penses qui va jouer le con? C'est Laurent Paquet. Ben oui, François Pignon. Bien content.
Mais c'est un beau personnage.
C'est un beau personnage.
Parce qu'il n'est peut-être pas si con que ça.
Il n'est peut-être pas si con que ça. Moi, je pense qu'il l'est quand même pas
oui,
mal.
Oui.
Mais c'est surtout une pièce qui montre que tout le monde est con un peu à sa façon. C'est le personnage du pédant, là, M. Brochant, qui est joué par Thierry Lhermitte au cinéma et qui va être joué par Normand Damour. Ça, là, ça va être malade. Normand, vous le connaissez, c'est tellement un grand acteur. Et puis là-dedans, j'ai tellement confiance qu'on va, on va faire un beau duo, lui et moi. C'est lui-ci, à un moment donné, tu réalises qu'il fait des erreurs. Puis c'est comme une belle petite leçon. Tu sais, le con, il est, à la fin, tu te dis, il est peut-être pas si con que ça, mais c'est surtout les autres qui le sont aussi un peu autour. Puis, tu sais, il y a une belle leçon, je trouve, dans cette pièce-là, sans être moralisatrice, tu sais. Parce que même à la fin, tu sais, quand François Pignon te dit, on n'est peut-être pas si con que ça des fois, puis tu sais les gens qu'on pense qui sont cons, c'est pas toujours eux. Tu sais, il y a une morale, mais à la fin de la pièce, tu réalises encore que François Pignon vient de faire une niaiserie, puis la pièce finit là-dessus sur une connerie de François Pignon, fait que c'est très drôle.
Est-ce que c'est difficile de pas se calquer sur Jacques Villeray?
Faut pas que j'écoute trop le film avant. Parce que, effectivement, ouais, hein, tout le monde, hein, on a la musique de Jacques Villeray quand il dit on a les droits, tu sais. Il faut pas que je le dise de même, tu sais, mais on est des Québécois dans cette pièce-là. Fait que déjà, ça va aider un peu à se détacher du personnage de Jacques Villeray. Donc, le personnage, il prend pour le Canadien, il prend pas pour l'OM l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain, ouais. Là, tu sais. Fait que c'est pas l'OM contre PSG, là. Ça va être Boston-Montréal. Fait que c'est ça, puis les références vont être québécoises. T'sais.
Il y a René Simard dans le show.
René Simard qui va jouer juste le blanc, et ça, j'ai bien hâte.
Il y a Pascal Montreuil.
Pascal Montreuil qui va jouer la femme de M. Brochant.
Donc sa vraie femme dans la vie.
Qui est sa blonde aussi dans la vraie vie. Gabrielle Fontaine, qui joue Pascaro, qui est la fille de Martin Fontaine, qui va jouer Marlène Sasseur. Donc, la maîtresse de Brochant. Ah non, ça va être une brochette. Bernard Fortin qui va jouer Cheval, le percepteur d'impôts, désagréable. Ça va être Bernard Fortin. On va avoir, pour vrai, on va avoir un fun fou sur la scène.
C'est ce que j'allais dire. Et en répète aussi. Là,
et en répète
c'est
aussi, j'ai l'impression.
C'est une gang comique là-dedans. Là,
ouais, Normand Damour, il peut être assez cabotin. On le connaît pour des rôles sérieux. Là. Oui, René Simard aussi. Mais tu sais, Normand Damour, on l'a vu jouer des méchants, puis on l'a vu jouer toutes sortes d'affaires. Mais les gens l'ont peut-être moins vu dans la vraie comédie. Puis dans la vie, c'est un méchant cave. Dans le bon sens du terme, là. Quand je dis un méchant cave, c'est qu'il est bien niaiseux, on a du fun. Tu sais, l'ambiance est très légère. On a eu une première lecture, puis l'ambiance était formidable.
Aimes-tu jouer des personnages?
Oui, j'aime ça jouer des personnages.
Tu le fais de plus en plus. Tu en as fait quelques-uns. Tu as fait du théâtre, tu as fait de la comédie musicale, des séries télé.
Plus en plus. Puis de plus en plus, j'ai confiance en moi dans ce domaine-là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, puis quand je faisais des petits rôles comme acteur, je me sentais toujours un peu imposteur. Tu sais, je m'étais dit, ah, ils me prennent parce que je suis connu. Puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Tu sais, mettons, j'ai eu le rôle dans Histoire de filles, mais... Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu as eu le rôle dans Histoire de filles, là, t'étais pas connu. Tu sais, fait que j'ai fait, ah non, t'as raison. Ça veut-tu dire qu'ils m'ont pris parce qu'ils m'ont trouvé bon? Tu sais, puis j'étais pas connu, même qu'il y a des gens que quand ils ont su que je faisais de l'humour, après, il y a des gens qui pensaient que j'étais un comédien parce qu'ils m'avaient connu dans Histoire de filles. Puis c'est après, quand ils ont vu que j'étais un humoriste, ils ont fait, ah OK, t'es pas juste... comédien, tu sais, t'es aussi humoriste. Je dis, oui, mais je suis surtout humoriste. Et je suis aussi comédien, mais je suis d'abord et avant tout un humoriste. Mais plus je vieillis, plus j'ai confiance en moi là-dedans, puis plus je suis heureux quand ça arrive. Tu sais, jouer la Duchesse de Langeais, demain matin, Montréal matin, là, au TNM. C'était stressant, mais j'ai abordé ça avec de l'humilité, mais avec la confiance aussi. Tu sais, j'ai fait confiance à René Richard Cyr. Il me dit, il m'aurait pas pris s'il avait pas pensé que je serais bon là-dedans.
Mais c'est un cadeau, ça, la Duchesse.
C'est un cadeau tombé du ciel.
C'est un des personnages les plus mythiques de Michel Tremblay.
Et j'ai su que c'était le personnage préféré de Michel Tremblay dans son œuvre. C'est une journaliste qui faisait un reportage sur le show qui me l'avait dit. Parce que moi, je disais, c'est mon personnage préféré de Michel Tremblay. Et elle m'a dit, ben c'est son personnage préféré à lui aussi. C'est ça qu'il a dit. Fait que, écoute, je me suis trouvé chanceux, là.
Est-ce que c'était stressant?
C'était stressant, mais moi...
Ne serait-ce que pour le costume, le maquillage.
Ne serait-ce que pour le costume. Ben, la première perruque qu'ils m'ont trouvée, j'étais pas heureux. c'est une perruque, c'était comme des cheveux qui partaient sur le côté. J'avais l'air de Coco le clown, tu sais. Puis là, je me regardais, puis René Richard m'a vu la face. Puis j'ai une face qui parle, ça a l'air, parce qu'il m'a dit, t'es pas heureux, hein? Je lui ai dit, je l'aime pas bien, la perruque. Puis il m'avait dit, on va te trouver d'autres choses. Fais-toi-en pas, là, regarde. Stresse pas avec ça, on va te trouver d'autres choses. Puis finalement, ils m'ont trouvé une espèce de perruque qui était magnifique. Je reviens à ce qu'on disait au début. C'était un cadeau. Un cadeau énorme que René Richard Cyr m'a fait parce que c'est lui qui m'a appelé. Là. C'est pas moi qui est allé les achaler pour qu'ils me prennent. Fait que c'était encore plus formidable.
Et cet été, Rita Baga t'a ramassé là-dessus au Comédia.
Oui, c'était très drôle. Ça, c'était très drôle.
C'était ton bien
en
cuit.
Disant, il y a un rôle marquant de drague dans l'histoire du théâtre, puis il la donne à un hétéro qui est même pas drague. C'était vraiment très drôle, ouais.
C'était comment ça, le bien cuit, pour toi?
Ah, je suis bon public en général. Puis c'est... À aucun moment, j'ai trouvé qu'il allait trop loin. Moi, je prends les jokes. Puis un bien cuit, là, si les gens, des fois, se posent la question, là, mais on a du fun, là. On fait pas semblant de rire, jaune, tu sais. Non, moi, j'ai ri, là. En fait, j'ai ri. Quand le bien cuit a commencé, là, puis Stéphane Rousseau faisait son numéro d'ouverture, je riais tellement... qu'à un moment donné, j'ai dit, Simonac, je vais perdre connaissance. Ça n'a pas d'allure. Je trouvais ça drôle. Je me dis, il est donc bien méchant. C'est donc bien baveux, mais maudit. Je riais, là. Puis je me disais, je serais pas capable de faire une heure et demie de même. Je vais mourir. puis finalement, je me suis calmé un peu. Puis, j'adorais ça. Moi, je pense qu'il faut être capable de rire de soi. Les jokes les plus... parce que je dis les jokes méchantes, mais en même temps, tous les gens qui me roastaient, c'est du monde que j'aime.
Oui.
Ou des gens que je respecte, tu sais. Mettons, je connais moins Rita Baga, je la connaissais moins personnellement. Je connaissais un peu moins Mathieu Dufour, mais toutes les autres. Maude Landry, Corinne Côté qui était là, Stéphane Rousseau qui est un vieux chum. Ils ont même appelé Simon Boudreau, mon ami avec qui je fais le show « On va tous mourir », qui est venu se foutre de ma gueule. Puis ça a été un des numéros les plus drôles. Fait que, non, moi, je c'est pas la méchanceté du gag qui m'aurait dérangé, c'est si j'avais trouvé le gag ordinaire. Parce que j'aurais dit, il s'est pas forcé pour moi. Il a fait un gag ordinaire. Mais si le gag est bon, même s'il est méchant, surtout que c'est dans un contexte où tu le sais, tu t'embarques là-dedans. Puis moi, quand j'ai participé au roast de Mike Ward, je me disais, il faut que ça varlope.
Ouais, c'est ça. Ben, Mike, probablement que tout le monde s'est payé à la traite un peu plus. Même. Hey,
quand le show a fini, on s'est tous demandé qu'est-ce qu'ils vont garder pour la TV. Il va y avoir du bip au pied carré dans ce show-là. Ça va être quelque chose. Puis Mike, évidemment, lui, il était crampé de rire. Là,
c'est sûr.
Non, il accepte qu'on rit de lui, puis de très bon cœur.
Tantôt, tu as parlé de La rue Rachel,
ouais.
Qui est sur l'album. La rue Rachel, qui est une tonne de pieds de poule.
Oui, les gens connaissent peut-être plus ou moins... Ben, les jeunes connaissent peut-être plus ou moins Pied de poule, qui est une comédie musicale de Marc Drouin et Robert Léger. Robert Léger qui a écrit beaucoup de textes et de musique pour Beau Dommage.
Oui, ben, qui est un membre de Beau Dommage.
Oui, t'as raison, carrément. C'est un des membres de Beau Dommage, c'est vrai. Mais je sais pas s'il jouait sur scène, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'important dans la gang de Beau Dommage.
Pourquoi celle-là?
Hey, je ne sais pas trop pourquoi celle-là. Moi, je l'aime beaucoup.
T'aimes beaucoup les comédies musicales?
J'aime beaucoup, déjà, puis j'aimais beaucoup Pied de poule. Puis je trouvais que c'est une comédie musicale peut-être sous-estimée. Puis je pense que même la chanson « Pied de poule », beaucoup de gens pensent à cette chanson-là sur « On branle un peu les fesses à gauche, à droite ». Fait que les gens pensent que c'est un peu nunuche comme chanson, un petit peu nono. Mais quand t'écoutes le texte, c'est très sombre, c'est très dur. Puis dans son « Le pied de poule », tu sais, il y a comme quelque chose d'insouciant là-dedans, qui dit on danse, on fait comme si ça allait bien. Un peu comme faire comme si, tu vois, c'est dansons le pied de poule. Puis quand tu dis danse, pense plus. Tu sais, pense plus. Tu sais, il y a quelque chose de plus profond
ben parce que qu'on pourrait penser. Les couplets sont rough.
Les couplets sont rough. Puis la toune, la rue Rachel, avait quelque chose que moi j'aimais beaucoup dans le fait que c'est pas vraiment chanté non plus. Tu sais, c'est le personnage de le Bistério, Geneviève Lapointe, qui déclame plus qu'elle chante, mettons, là-dedans, tu sais. Mais moi, j'aimais ça. Puis je trouvais juste que la toune originale avait des sonorités qui étaient très figées dans le début des années 80. L'espèce de synthé, là. Tu sais, ça fait vieux, ça fait... Ça a été à la mode pendant 2 ans, ces claviers-là, oui. Puis ces instruments-là. Mais la toune est encore bonne, tu sais. Puis là, j'ai fait, ah, moi, comment, si je reprenais cette chanson-là, comment je la ferais? J'étais juste curieux de voir une version acoustique de ça. Puis j'ai demandé à Eric de me préparer des arrangements là-dessus. Puis il est arrivé avec une espèce de... Ça sonne quasiment la musique latino au début avec le piano, là. Puis il a fait des arrangements formidables. Puis, puis ça donne une des chansons. À un moment donné, j'ai fait, crème, c'est-tu ma toune préférée de l'album? Puis ça l'a été pendant un petit bout, tu sais, d'une journée à l'autre, ça changeait. Mais à un moment donné, j'ai fait, hey, je pense que c'est ma toune préférée de l'album. C'est un peu triste, c'est une des tounes qui n'est pas de moi. Mais celle-là aussi, j'ai pas parlé ni à Marc Drouin ni à Robert Léger, mais j'aurais été curieux d'entendre leur point de vue parce que je pense que ce qu'on en a fait, c'était réussi.
Cette année, c'est les 20 ans de ton premier one-man show.
Oui, c'est vrai.
Ça te fait quoi de voir déjà que tu es toujours là, puis que les gens sont toujours là, répondent à l'appel 20 ans plus tard?
Ben, moi, c'est une de mes grandes fiertés. De durer, d'être encore là, puis d'avoir l'impression qu'aujourd'hui, je suis meilleur qu'il y a 20 ans. Tu sais, des fois, tu peux plafonner dans la vie, puis des fois, quand tu fais de l'humour, puis que tu as du succès, c'est facile de dire, « Hey, je pense que j'ai trouvé la bonne formule. »
Et de toujours la répéter.
Fait que je vais garder la même formule. Tu sais, là, tu changes pas une formule gagnante, là. Ben, je trouve pas que c'est bon en humour. T'sais, parce que si toi, tu changes pas, le monde, lui, autour, change. Fait que si toi, tu changes pas, t'as l'air de pas suivre la POC. T'sais, t'as l'air de... Fait que moi, je trouvais que c'était important de continuer d'être curieux, de continuer de vouloir m'améliorer, puis de vouloir voir ce que les autres font aussi. C'est peut-être ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui, puis que j'ai l'impression d'être encore actuel en humour, c'est que je m'intéresse aux autres aussi. Je m'intéresse aux jeunes humoristes. Moi, j'ai jamais vu les jeunes humoristes comme de la compétition. J'ai jamais vu ça comme du monde qui me menaçait. J'ai juste vu ça comme à ce prix qu'ils sont bons. Maudits qu'ils sont bons. Hey, moi aussi, il faut que je sois bon. Il faut que je continue d'être bon.
Ça relève le niveau du jeu.
C'est ça. Moi, j'ai toujours vu ça positivement. Puis quand je prends quelqu'un pour faire ma première partie, je m'arrange pour choisir ceux que je trouve les meilleurs. C'est souvent de la relève, évidemment. Tu sais, Louis-José fera pas ma première partie, mais tu comprends? Je vais dans la relève, puis j'en veux des bons. Parce que je veux que, quand je rentre sur scène après, je suis obligé d'être meilleur parce que, tu sais, il faut pas que tu sois moins bon que ta première partie.
Et ta foule est bien partie. Ben, la foule parce qu'ils ont été bons.
Ben oui, c'est ça, exactement. Puis le succès des autres est jamais au détriment de ton propre succès. Tu sais, les gens qui aiment les autres humoristes, ça veut pas dire qu'ils m'aiment moins. Tu sais, l'amour, on dit ça aux enfants, mais ça se multiplie, ça se divise pas. Tu sais, fait que quelqu'un qui va voir Louis-José puis qui trippe sur le show de Louis-José, il va se dire, « Hey, il me semble que j'irai revoir un show d'humour. » Hein, on a passé une belle soirée la dernière fois qu'on a été voir un show d'humour. Fait que là, il va aller voir Laurent Paquin ou François Bellefeuille. Mais quelqu'un qui voit un show d'humour dans l'année puis il s'emmerde parce que c'est pas drôle, après ça, il se dit, « Hey, les shows d'humour, là. » On a fait le tour. Hein? On va lire un bon livre. On va aller au cinéma. Fait que quand les autres sont bons, ça nous oblige à être bons. Puis ça, c'est tout relié. Je dis pas qu'il n'y a pas de compétition. Il y aura toujours un peu de compétition, évidemment. Mais je trouve qu'en général, c'est une compétition qui est assez saine, à mon avis.
Là, il y a ton spectacle qui se poursuit.
Oui. En ce moment, j'ai plein de spectacles. On va tous mourir, se poursuit. Tu vois, on part bientôt. Là, on s'en va sur la Côte-Nord. On s'en va après ça, Gaspésie, Rimouski, dans le bas du fleuve. On va se promener pas mal. On va se rendre jusqu'au début de l'année 2022 avec ça. Puis là, en ce moment, je roule. J'ai un peu moins de show, mais je fais un show qui s'appelle « Laurent fait du nouveau », qui est un peu du rodage.
Okay.
C'est pas officiellement le rodage du prochain show,
mais c'est un show
où je fais du nouveau. En me disant, ça va peut-être être dans le prochain show. Fait qu'il y a du nouveau matériel qui va sûrement être dans le prochain show. Puis je fais des numéros aussi que les gens n'ont pas encore vus parce que je les ai faits, mettons, à Comédia l'été passé ou à Juste pour rire. Fait que les gens qui viennent voir ce show-là, Laurent fait du nouveau, c'est du nouveau, vraiment. Peut-être que les gens vont reconnaître quelques blagues parce qu'il était à Juste pour rire, mettons, l'été passé. Mais mon but à moi, c'est de... commencer. C'est comme un rodage avant le rodage de mon prochain show.
Qui serait en 2023?
Probablement. Pour l'instant, c'est ce vers quoi on s'enligne. Mais il n'y a pas encore l'échéancier précis. Mais tu sais, il faut laisser passer le dîner de con, évidemment. Mais tu vois, pendant les derniers mois du dîner de con, je vais sûrement commencer le rodage de mon one-man show. Puis quand le dîner de con va être fini, on va lancer le one-man show plus officiellement.
Laurent, je vais inviter les gens à se procurer ton album.
En vente dans tous les bons magasins et même dans les moins bons. Sinon, il est téléchargeable. Ouais, ouais. Les gens peuvent l'écouter partout, dans le fond, partout où tu peux écouter de la musique. L'album, on s'est arrangé pour qu'il soit disponible le plus possible partout.
Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Hey, merci de l'invitation.
C'est super.
Merci au public de vous être déplacé. Vraiment. Ah oui. C'est très agréable.